que fièvre hai.
Salut à vous à la recherche du groove perdu, session 289, émission musicale à géométrie variable sur la musique et ses histoires, diffusion radiophonique sur RDWA, Radio Saint-Ferréol, Radio Dragon et Radio Transparence. Les podcasts dispo comme d'hab sur le site internet www.rdwa.fr. Hier dimanche 26 mai 2019, c'était le premier tour des élections européennes avec comme d'hab sur l'autre surprise qui n'en sont plus, à savoir le taux record d'abstention, le délitement de la vraie gauche, la survie des libéraux malgré la tempête permanente et le score élevé du FN. Pour faire écho à ce contexte de campagne électorale, on démarre cette semaine une série d'émissions intitulée Musique et politique, où il sera question de combats politiques, de campagne électorale, de président superstar, de pensionnaire de la Maison Blanche, de démocratie, de vote. Le tout sera mis en musique avec des chansons causant des sujets abordés ou composés. On ira à la Réunion en faisant le lien entre Maloya et le Parti communiste réunionnais, à la Jamaïque avec la récupération politique du reggae par le parti de Michael Manley à partir de 72, aux États-Unis d'Amérique avec les présidents américains de Roosevelt à Trump, en Afrique avec le cas de Sa Majesté Bokassa Ier. On parlera aussi de Papa alias Général de Gaulle, comme l'appelait Bokassa, de Giscard d'Estaing en version superstar. Voilà, le programme sera vaste dans cette dans ce nouveau cycle d'émissions. Bref, beaucoup de choses. Et pour ce qui est de l'émission du jour et de celle de la semaine prochaine, on va s'intéresser à la politique française. Pour démarrer en beauté ce cycle d'émissions, on va s'intéresser au Front National et à l'extrême droite française. On va pas se taper tout le chemin idéologique parcouru depuis la Révolution, mais les prémices de l'extrême droite française remonteraient bien à la fin du XVIIIe siècle, avec les contre-révolutionnaires qui voulaient rétablir la monarchie en 1882 et créer la Ligue des Patriotes, premier mouvement nationaliste français, avec des noms comme Paul Déroulède, qui voulait déjà à l'époque bâtir une nouvelle France, à savoir une société disciplinée régie par un pouvoir autoritaire, le respect de la hiérarchie et autres valeurs qui évoquent ni plus ni moins qu'une société militarisée ou militariste. Au début du XXe siècle, l'extrême droite va prendre plusieurs visages, comme l'Action française, parti politique influent à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. On retrouve dans ses rangs des antisémites, anticommunistes, des traditionalistes, des antiparlementaires et les ligues et autres mouvements d'inspiration nationale qui vont surfer sur la crise de 1929. Mais ils ne vont pas réussir à prendre le pouvoir dans les années 30. Il faudra attendre la divine surprise et la défaite de la France face à l'Allemagne nazie en 1940 pour que s'installe un pouvoir ouvertement inspiré des thèses de l'extrême droite, à savoir le régime de Vichy. Au lendemain de la guerre, la survie même de l'extrême droite paraît incertaine et pourtant elle renaît de ses cendres avec le poujadisme. Pierre Poujade, ouvertement xénophobe et antisémite, crée un mouvement populiste en 1953, l'UDCA, l'Union des défenses des commerçants et artisans. En 1956, Poujade présente des candidats aux législatives. Son mouvement obtient à la surprise générale 12% des voix et 50 députés, parmi eux le plus jeune député de l'Assemblée nationale, un certain Jean-Marie Le Pen, âgé alors de 27 ans. Un des terreaux du renouveau de l'extrême droite française sera la guerre menée dans les colonies Indochine et surtout guerre d'Algérie. Sujet de cette intervention de JMLP, la première apparition à la télé du bonhomme, il a participé à ces deux guerres en tant que lieutenant parachutiste où il a été cassé du renégat autochtone. Il porte un bandeau. Nous sommes le 24 avril 1974. Les élections présidentielles pointent le bout de leur nez.
À un moment donné, j'ai eu le sentiment que mon pays, l'Europe, la France était en guerre. En guerre avec le communisme, c'était le moment de la guerre froide. Et puis, on se battait. On se battait, des Français se battaient, très loin, à 18 000 kilomètres de chez nous, dans des conditions épouvantables. Ils menaient une guerre qui était ignorée du pays, ignorée des Français, avec un gouvernement qui les y avait engagés, mais qui ne les soutenait pas, et poignardé dans le dos par l'action du Parti communiste, dont je rappelle qu'il allait jusqu'à jeter les blessés qui revenaient d'Indochine hors des trains qui les transportaient. Et je me suis senti, là, appelé vers ceux dont je pensais qu'ils portaient avec eux l'honneur du pays, et par souci, ils souffraient le plus. Je croyais, moi, en la plus grande France. Et bien, j'ai mis mes actes en conformité avec ma pensée. J'ai quitté le doctorat de sciences économiques que je faisais et je me suis engagé au 1er bataillon étranger de parachutistes où j'ai servi comme sous-lieutenant. Je suis allé en Indochine. Et dois-je rappeler aux Français qu'il y aura dans 10 jours 20 ans que dans la cuvette de Dien Bien Phu, quelques milliers d'hommes qui gardaient l'honneur et le drapeau sont morts ou ont été contraints à la capitulation. Je voudrais que cet avertissement qui fut donné dans notre histoire ne soit pas complètement oublié, car la suite des événements allait prouver qu'il était ô combien nécessaire. Et puis j'ai vu la rentrée du corps expéditionnaire du Tonkin en Cochinchine avec ces populations que nous abandonnions après leur avoir juré fidélité. Et quand je suis rentré en France en 1955, j'avais une grande colère politique contre un régime qui s'était couché dans la boue et de la défaite, la 4e République. Et je me suis lancé dans la bataille, j'ai été élu député à 27 ans et je me suis trouvé pratiquement leader d'un groupe politique lancé dans la bataille parlementaire à l'égal des leaders. Et puis c'est le moment où M. Guy Mollet, M. Mitran et M. Mendès-France ont envoyé le contingent en Algérie pour faire la guerre. Et j'ai estimé qu'il était de mon devoir de parlementaire, capable de porter les armes, d'y aller avec le contingent, puisque, dans le fond, j'étais d'accord pour préserver cette partie de la France et l'indépendance énergétique et politique de ce grand ensemble et du Sahara. Alors je suis allé avec eux, j'ai servi aux côtés de tous les camarades français qui y étaient. Je sais maintenant qu'on m'en fait reproche et que les gens qui m'en font reproche sont ceux qui portent la responsabilité de cette guerre. J'ai cru aussi, en 58, que un grand espoir était né. Et j'ai été vite déçu, car je me suis aperçu, une fois encore, que l'on ne tenait pas les promesses que l'on avait faites. J'ai été réélu député, j'ai été rapporteur du budget de la guerre, j'ai eu des responsabilités importantes, et je me suis battu dans la fidélité des engagements de la France aux hommes, d'abord aux Français qui étaient là-bas, et ensuite à tous ces Algériens à qui nous avions juré par la voix des plus éminents de nos chefs qu'ils resteraient Français à tout jamais. J'avais d'ailleurs, dans un autre temps, soutenu la candidature en 1957 d'un Français d'Algérie à Paris, comme un Breton ou un Basque. Et je crois que c'est tout à son honneur et au mien. Ce n'est pas nous qui avons fauté dans cette affaire. Et puis en 1962, eh bien, j'ai payé le prix de mon engagement politique. J'ai été battu aux élections.
Il est dangereux, il a toutes les dents pointues. Il a pas de molaire, il a que des canines. Il est dangereux, il a toutes les dents pointues. Il a pas de molaire, il a que des canines. Nous on peut pas savoir ce que c'est la vie conjugale que peut mener cette tare congénitale. Ah ah, ah ah. Cet individu est né à l'insu de ses parents. N'allons pas plus loin disant que c'est un accident. Ah ah, ah ah. Je verse quelques pièces à ce dossier nauséabond. Pourquoi tant de haine à l'intérieur d'un embryon? On s'est posé les plus grandes questions à son sujet. Pourquoi faut-il qu'il pèse à ce que rien d'un sifflé?
Un peu comme la lèvre du dindon. Il a un grain qui passe sous le menton. C'est pas rugueux, c'est visqueux.
Il a les yeux livides du triton.
Quand on a baigné dans du jus de citron.
Il est moche, il est affreux.
Tabli abada, mama io, mama io.
C'est évident dans le dommage motorise. Arrêtez debout au milieu d'une cour assise.
Tabriya madame mama eh, bambaliya mama eh. Tabriya madame mama eh, bambaliya mama eh, mama eh ba.
Oh mama hey ah, oh mama hey ba, oh mama hey ah.
Quand ils plongent les poissons, ils en veulent pas de lui. On aime mieux finir en bouillabaisse ou même frit. On s'est posé les plus grandes questions
fondamentales.
Est-il végétal, animal, trou du cul, anal?
Les piranhas, même les poissons, chats préfèrent la moco qu'à dire ça. Ça c'est pas étonnant, c'est même évident.
À l'assemblée, on lui dit casse-toi, dégage. Si tu feras pas la loi, ta mère fait que du vent.
Tabri abada, mama ilio, mama ilio, mama ilio. Tabri abada, mama ilio.
Affaibli au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'extrême droite retrouve de la vigueur avec la guerre d'Algérie à partir de 1954. Des groupuscules se forment au moment où Charles de Gaulle ouvre la voie à l'indépendance de cette colonie française. Malgré cette renaissance politique, les résultats électoraux dans cette période d'après-guerre sont faibles. Jean-Louis Tixier-Vignancourt, ancien pétiniste, doit se contenter de 5% des voix à l'élection présidentielle de 1965. Parmi ces groupuscules d'extrême droite, le bien nommé Ordre Nouveau fédère à partir de 1969 d'anciens SS, des nostalgiques du régime de Vichy ou encore d'anciens militants de l'Algérie française. Lors du deuxième congrès de l'Ordre Nouveau organisé en juin 1972, une stratégie de Front National est adoptée par le parti du même nom. Dans les fondateurs du parti, que du beau monde, voyez plutôt Léon Gauthier, un ancien SS nazi chroniqueur à Radio Vichy pendant la guerre, Roland Gaucher, responsable des jeunesses nationalistes populaires, un mouvement de jeunesse collaborationniste condamné fin 1944 et libéré en 1949, François Brignot, ancien milicien et collabo notoire, Pierre Bousquet, enfin, premier trésorier du Paris, parti membre du parti fasciste dans les années 30 et caporal SS durant la guerre. Voilà quels sont les hommes fondateurs du Front National, des anciens nazis, des collabos, des miliciens, des nostalgiques du régime de Vichy. C'est avec ses adorateurs du Troisième Reich que Le Pen se lance dans la présidence, dans la course à la présidentielle en 1974. Extrait d'un meeting, celui du 3 mai 1974.
On nous dit, et M. Giscard d'Estaing vous le dira sûrement demain soir, il est essentiel que l'on vote pour moi dès le premier tour. Il faut donc voter pour moi et ces valets de plume renchérissent. Il faut voter, quoi que nous pensions, pour M. Giscard d'Estaing, certes. Jean-Marie Le Pen mène depuis si longtemps, comme si j'avais 90 ans, un combat courageux et que nous respectons, mais hélas, sans aucune chance, tandis que Giscard d'Estaing, lui, eh bien je dis que c'est un raisonnement faux et qui est destiné à vous tromper. Parce que, en toute hypothèse, M. Giscard d'Estaing ne sera pas élu au premier tour. Et que l'on vote pour Giscard d'Estaing ou que l'on vote pour Le Pen, ça n'apportera pas une seule voix à M. François Mitterrand, pas plus que ça lui en retirera.
Tes yeux sont bleus, ta pure et blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet endroit pour qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me crois, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, et on dit tout haut, ce que les jeunes des ghettos pensent tout. Le Romeu et le Renoir, c'est vrai. Certains me diront que c'est une banalité, mais en attendant, beaucoup de nafas se font tuer. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Si je vois un facho devant moi, obligé, faut qu'il bouge. Je me sers de mon micro comme je me servirais d'un Uzi pour éliminer le FN, le PN et tous les fachos à Paris. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton roi des blancs, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ta fleur de lys se fane, du cannabis je fume. Ton emblème est sous les blâmes, car l'enjeu en est la thune. Ton système je condamne à s'enliser dans la brume, pour rire dans la base d'un étang et à en embrasser l'écume. Des fois je suis armé, mais je me défends avec une plume. Ce que j'écris sur le cahier, je le dis, je le vis et je l'assume. Rock and Sonic son anime les danses comme le veut la coutume. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, les lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet endroit pour qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire
je puisse faire surface. Oi, on dit tout haut.
Les débuts du Front National sont difficiles. 0,5% des voix aux législatives de 1973, 0,74% des voix à la présidentielle de 1974. Le parti de Le Pen adopte une nouvelle rhétorique lors de l'élection législative de mars 1978. Depuis 4 ans, le secrétaire général du FN, François Duprat, insiste pour que le parti dénonce les dangers de l'immigration. La campagne électorale est donc axée sur ce thème. Malgré une mobilisation militante importante, JMLP rassemble seulement 0,33% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections législatives. Pour les présidentielles de 1981, Le Pen ne trouve pas les 500 signatures nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. L'arrivée de Mitterrand et d'une vraie gauche au pouvoir effraie les électeurs conservateurs qui jugent la droite parlementaire trop modérée et trop divisée. Le Front National représente alors le choix d'une ligne dure face à la gauche qui connaît à partir de 1983 d'importantes difficultés. C'est à partir de cette date que le FN et ses multiples ramifications politiques font parler d'eux et grimpent dans les scrutins et les sondages d'opinion. Petit tour d'horizon de l'extrême droite en 1983 avec un extrait de journal télévisé. On peut y entendre notamment notre bon vieux Jacques Chirac en fin de reportage et voir un magnifique costume des potes porté par le présentateur. Archive.
Par ailleurs, que le mécontentement et le sectarisme socialiste expliquent la forte poussée de l'extrême droite lors des dernières élections. Cette émergence et cette poussée de l'extrême droite apparaît donc aujourd'hui comme l'une des préoccupations essentielles du monde politique français. Pourtant, il faut bien voir qu'avant même que cette extrême droite ne remporte des résultats significatifs aux élections, certains de ses membres avaient déjà regagné les rangs de l'opposition traditionnelle. Ils ont ainsi parfois rallié l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing, le RPR de Jacques Chirac ou le Centre National des Indépendants de Philippe Malot. Jean-Louis Le Sen a cherché à retracer leur itinéraire. C'est le dossier de ce journal.
C'était à Aulnay-sous-Bois il y a quelques semaines. Le candidat du Front National venait de se voir décerner un label d'authenticité. 15 jours de campagne, 9% des voix. Ses supporters exultaient, chahut estudiantin ou débordement significatif. Toujours est-il qu'au cours de cette même campagne, le leader du Centre National des Indépendants n'hésitait pas à se réclamer de la droite, une étiquette jusqu'à présent honnie sous la Ve République.
C'est complexe maintenant, ça suffit. Je représente ici un parti de droite modéré, national et libéral, et je dis que l'unité est l'élément le plus important ici, comme à Antony, comme à Sarcelles et comme à Dreux.
Il est vrai que depuis peu, le CNI, formation politique traditionnelle s'il en est, le CNI trouve des recrues de choc. Le capitaine Sergent, écrivain à 16 heures, mais surtout ancien de l'OAS, et Alain Robert, un des membres actifs du mouvement dissous Occident et fondateur du groupe Université Défense, le GUD. La conversion pour lui est dans la logique.
À l'époque, c'était Occident, c'était le GUD, tout cela, ce sont des termes. Et puis c'est une question d'âge, une génération. À l'époque, on avait 18 ans. Et à l'époque, j'étais effectivement dans ces mouvements-là, comme Lionel Jospin était trotskiste. Et lui lançait ses pavés contre les CRS. Et moi, j'essayais d'exprimer mon opinion dans les facultés. C'était pas chose facile. Et aujourd'hui, eh bien, mon engagement politique, c'est une continuité. J'étais un homme de droite en 1963, je le suis resté en 1968, je le suis en 1983.
Point de rencontre de l'extrême droite et de la droite, non pas pour les méthodes souvent musclées, mais surtout pour l'idéologie, le Club de l'Horloge qui est lieu de réflexion. On retrouve sa philosophie dans certains éditoriaux du Figaro Magazine. Ce n'est certes pas travail, famille, patrie, mais c'est l'encouragement à l'effort, au mérite personnel, contre la chienlit égalitaire. Fascisme, non. D'ailleurs, Yvon Blot, chargé des relations Assemblée-Sénat au RPR, après avoir occupé les fonctions de chef de cabinet de Bernard Ponce, Yvon Blot retourne le compliment à la gauche.
Les deux vrais fascistes français pendant la guerre étaient l'un issu du Parti Socialiste, Marcel Déat, et l'autre du Parti Communiste, Jacques Doriot. Alors nous disons que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, et qu'il y a un point commun dans toutes ces idéologies, c'est que l'État est plus important que l'individu, la société est plus importante que l'individu. Alors, nous pensons que l'égalitarisme, la volonté de nivellement, est dangereuse pour les libertés, et qu'au nom de l'égalitarisme, on peut effectivement détruire les libertés individuelles. L'égalitarisme se retrouve d'ailleurs dans l'idéologie communiste, comme dans l'idéologie fasciste d'ailleurs, curieusement. Mais cela dit, pour nous, l'égalité, c'est très important. L'égalité, c'est le mérite individuel de chacun qui est reconnu par la société. Donc nous pensons que l'égalité républicaine, c'est le contraire même de l'égalitarisme.
L'extrême droite existe, nous l'avons rencontrée à l'université, disent les plus jeunes, pour la majorité en 68. La rue d'Assas hier, Sciences Po et d'autres facultés de province aujourd'hui, mais ces militants qui ont basculé de l'extrême droite, pas toujours orthodoxe, vers l'opposition légale, ont parfois fait plus que simplement changer de trottoir. Exemple, Alain Madelin, député UDF d'Ille-et-Vilaine depuis 78, qui ne souhaite pas pour le moment parler de sa propre mutation. Car aujourd'hui, l'opposition républicaine, devant la percée spectaculaire du Front National, l'opposition républicaine hésite. Simone Veil prend position avant Dreux.
Je m'abstiendrai.
Et Simone Veil révolutionne à droite. Jacques Chirac minimise pour sa part le phénomène en prévoyant le retour de l'opposition aux affaires.
Vous verrez l'extrême droite, tout d'un coup, redevenir ce qu'elle est en France, c'est-à-dire un phénomène absolument marginal.
Il n'empêche, la montée du nationalisme, en France comme ailleurs, suscite toujours les passions. Et si les mouvements de voix qu'on enregistre actuellement n'étaient pas seulement antiparlementaristes, pas seulement néo-poujadistes, mais réellement d'extrême droite. Si, pour le moment, on ne voyait que la partie visible de l'iceberg. Après les scrutins de Dreux, d'Aulnay et d'Auray, ces questions méritent en tout cas d'être posées.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages. Ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité, et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leurs remparts. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher, qui vous montrent leur tour, leur musée, leur mairie. Vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches, enfouissent la tête, on trouve pas plus fin. Quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon, c'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance, ils plaignent de tout.
En juin 1984, c'est la surprise, le Front National obtient 11,1% des suffrages aux élections européennes. Le Pen et 9 autres députés frontistes entrent au Parlement de Strasbourg. En 1986, l'instauration du scrutin proportionnel lui donne une deuxième chance. Il a 10% des voix et 35 députés à l'Assemblée nationale. Le 13 septembre 1987, JMLP est invité sur RTL, évoque les chambres à gaz utilisées par les nazis. Il affirme que c'est un détail de la Seconde Guerre mondiale et refuse de dire au micro que les 6 millions de morts juifs constituent un génocide pour lui. Il y a eu des morts juifs et non juifs circulés, un dérapage qui déclenche un tollé général et un procès. Il sera condamné le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles pour banalisation de crimes contre l'humanité et consentement à l'horrible. Cette déclaration place alors le parti à la marge, pas pour longtemps.
À la suite des propos de M. Le Pen qui a mis en doute l'existence des chambres à gaz et donc
l'extermination par ce moyen de 6 millions de juifs. Nous vous ferons part dans un instant des réactions du monde politique, des adversaires et des partenaires du Front National dans plusieurs conseils régionaux et celles des mouvements ou associations humanitaires.
Et lorsque Jean-Marie Le Pen, qui était donc l'invité du grand jury RTL Le Monde, a qualifié les conditions du génocide de point de détail, l'indignation a été immédiate.
Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais vous mettez en doute...
6 millions de juifs, c'est un point de détail ?
Non, mais est-ce que
6
c'est...
millions de morts ?
Est-ce que vous affirmez... Non, pardon.
Je l'ai compris, mais...
Non, mais 6 millions de morts, comment c'est...
Juifs ? Oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail ?
Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas ?
Oui, c'était pas un point de détail, quand même.
Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire ? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions.
Il y a une immense majorité d'historiens qui l'ont dit et prouvé, et
absolument.
Quelques autres qui...
Non, mais vous-même, M. Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs
Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs, et aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas?
Écoute ça, si c'est mis à la charage sur l'antifascho style. I really am fire. Je veux bien exprimer mes peurs et ma colère, je sens urgence. Même si ma peau est claire, j'entends les gens dire oula. Les fachos reviennent, ces gens-là n'ont pas tant, mais sont en retard d'une guerre, pas les fachos. Et les fachos sont là, c'est pour le croire, ouvre les yeux, regarde les fachos. Et les fachos sont là, rends-toi compte du danger, ouvre l'idée, l'idée, l'histoire, car bon, c'est clair, clair. Le bord du Hitler, c'est du pareil, du pareil, du pareil. Au même lieu, pouvoir le pas encore, mais c'est la même de merde, les mêmes mensonges, les mêmes à goût, le même amour de la haine,
c'est clair, clair.
Le bord du Hitler, c'est du pareil, du pareil, du pareil, au même.
Sauf que 50 ans après, le diable ne parle plus allemand, son immonde, blabla. Cher dans ses francs, sans ta mort et bien en tes métimpans. Il faut le réduire au silence pendant qu'il est encore temps.
Ça fait trop longtemps qu'ils avancent.
Je les vois au pouvoir dans certaines grandes villes de France.
Ça fait trop longtemps qu'ils avancent.
Alors,
j'en appelle à la résistance. La flamme, la flamme a grandi, a grandi, a grandi. Dans trop d'endroits le feu a pris. Faut-il la moindre des béboules pour qu'on combatte l'incendie. La flamme, la flamme a grandi, a grandi, a grandi. Dans trop d'endroits le feu a pris. Faut-il que tout le béboule pour qu'on combatte l'incendie. J'ai fait que la vague de vitre, j'ai vu la police municipale.
Diplomatie minimale, provocation maximale.
Pour égal, ouais, au règne du règne animal.
Il se voudrait lion.
Mais l'histoire a montré que les chacals peuvent faire mal, très mal, dépasser l'abominable.
Ceux qui préparent leur arsenal pour une nouvelle guerre tribale déjà parfois résonnent les valeurs d'idées changées de cadavre.
Et les gens s'habituent, leur présence est banale. J'ai Marco Mike, c'est que je rêve ce radical de plus entendre parler de discrimination raciale. Je connais de cette histoire, elle mènera au champ bagage. La flamme, la flamme a grandi, a grandi, a grandi. Dans son endroit le feu a pris. Faut dire la moindre des béboules pour qu'on combatte l'incendie. La flamme, la flamme a grandi, a grandi, a grandi. Dans son endroit le feu a pris. Faut dire que tout le pays brûle pour qu'on combatte l'incendie.
Since Emilia, la flamme à la recherche du groove perdu. On démarre cette semaine un cycle d'émissions intitulé Musique et politique. Et on retrace depuis une demi-heure l'histoire du Front National. Pour rappel, le parti politique est né en 1972, amalgamant des anciens combattants des guerres coloniales et des anciens nazis. On reprend le fil historique du jour. On était resté en septembre 1987 avec les propos de la bête sur les chambres à gaz. Ces relents révisionnistes sur la Seconde Guerre mondiale ne vont pas empêcher le Front National de s'installer dans le paysage politique français. 1988, Le Pen obtient 14,4% des voix au présidentiel. 1993, il obtient 12,7% des voix aux législatives, mais aucun député, car on est revenu au scrutin majoritaire défavorable aux petits partis. 1994, un peu plus de 10% des voix aux élections européennes. 1995, la campagne pour les présidentielles est émanée d'incidents. Le Pen fait 15% des voix dans la foulée. Les mairies de Marignane, Orange et Toulon sont conquises par le Front National. NTM sort Paris sous les bombes avec le morceau « Plus jamais ça ». Avant ça, on parle de ces incidents de 1995 pendant la campagne présidentielle. C'est parti.
A été relativement paisible. Les drames ou incidents graves qui ont émaillé la campagne ont à chaque fois mis en cause plus ou moins directement des militants ou des sympathisants du Front National. Rappel signé Christophe Tortora.
Ibrahim Ali est mort à 17 ans pour avoir croisé une nuit de février des colleurs d'affiches du Front National. Ce jeune Français d'origine comorienne a été tué par balle par trois militants du Front National. Les trois hommes ont été mis en examen pour homicide. Pourtant, Bruno Maigret évoque la légitime défense de ces militants.
L'un d'entre eux a été violemment agressé par une quinzaine de Comoriens et ses deux compagnons qui se trouvaient 300 mètres plus loin sont venus à son secours en état de légitime défense.
Selon les amis d'Ibrahim Ali, aucune altercation entre les deux groupes n'a précédé les coups de feu. Quelques semaines plus tard, en meeting à Aix-en-Provence, Jean-Marie Le Pen fait de cet homicide un argument de campagne. Mais lui, il préfère parler d'un accident.
Le triste accident qui s'est passé il y a quelques semaines à Marseille a eu cependant l'avantage de révéler aux Marseillais eux-mêmes qu'ils ignoraient qu'il y avait 50 000 Comoriens à Marseille.
En mars, à Auch, de violents affrontements ont opposé des jeunes de la caravane de campagne du Front National à des étudiants.
J'étais assis sur un banc et puis ils sont arrivés et puis tout ce qui bougeait, tout ce qui ressemblait à un lycéen, ils cognaient.
Le gendre de Jean-Marie Le Pen a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, il a fait appel. D'autres membres de la caravane s'indignent.
Vous savez que depuis 3 semaines, nous avons l'habitude. Et en 3 semaines, nous n'avons pas mis une seule claque.
Enfin, hier à Paris, alors qu'un Marocain de 29 ans est tué poussé à l'eau par trois skinheads qui ont quitté quelques instants la manifestation du Front National, Jean-Marie Le Pen parle là d'un incident.
Personne ne sait rien de cet incident qui s'est produit hors de du défilé de Jeanne d'Arc, hors du défilé du Front National.
Des incidents, accidents ou meurtres qui ne sont pour certains que des détails dans l'histoire du Front National.
Mais on n'est tous pas de ce retour au même schéma.
Non plus jamais ça, seulement voilà là. Il semblerait que des cadavres les caractérisés soient relevés. Dans l'entaprouvé qu'avec facilité, hey. Les erreurs du passé peuvent se renouveler, hey. Faire l'affaire des supporters de la croix, de faire le bras tendu en l'air, le sigle rebelle leur bannière. Bom, bom, bang, man shoot, moi ça double R.
Avec plaisir, je les shoot dans la tête, mais ma terre
nationale et ce front international et l'affront. Voilà pourquoi je fais front, fronçant les sourcils quand le nom sénile s'amuse à faire un score de 25% dans ma ville.
Plus
jamais ça stoppe en tout, ça stoppe en les morales. J'ai cérébral et l'embolie, vous avez compris. Vous avez saisi, ressaisi, c'est vous. La jeunesse doit être à l'heure, au rendez-vous. Fixé, en effet, pour pisser sur la flamme tricolore. Le putain d'étendard du parti n'est pas moi. Trop hardcore, mais j'aimerais les voir morts. Je rêve parfois de les voir en victime martyr dans un film gore. Oui, oui, vous avez compris qui je suis. Je combat ceux dérangés par les odeurs et les bruits, car on est tous là de ce retour au même schéma. Auquel on avait déjà répondu, plus jamais ça.
Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma.
Ah non,
cette fois non, je leur fais
encore.
dépend de toi.
Ah, mais aussi de toi.
Faut que rester sans voix. Pendant qu'elle se pourrit, sauf pas continuellement le droit de tenter.
Ouais,
d'amorcer le web.
Ouais,
la voix, puis la voix.
Ouais,
par la suite,
ouais.
Puis d'essayer, ouais, de computer certains éléments de notre passé. Alors ne laissons pas le temps.
Non.
Prendre les devants.
Non.
Ne laissons pas le temps.
Non.
Allez, en refermant toutes les blessures de ce cas de figure. Qui n'en avait pas simplement l'allure.
Mais qui fut
la poche d'une idéologie de mort.
De mort.
Que fait l'épuration ultra épique de l'or. De nos jours, cette bannière est encore là. Assurée par les nouveaux buteurs.
Viens voir ici, viens. Viens voir toi toujours. Viens.
Conquêter les colonies, on a déjà vu le résultat de ces conneries. Alors va-t-on continuer à se laisser manœuvrer par la haine malsaine d'un déséquilibre mental. Je vous rappelle qu'il prône la ségrégation raciale. Je vous rappelle encore que cet homme n'est pas normal. Et ce, depuis la déconvenue de la guerre d'Al. Chéri qui n'a pas digéré. Mais nous on s'en bat les couilles, on n'était pas là. Et on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma. Mais on est tous là de ce retour au même schéma.
Mathématique. C'était sûr, ce passé chargé d'un genre, mais ce qui est plus sûr pour le futur, c'est qu'on aura droit.
NTM, plus jamais ça, morceau paru en 1995 en réponse à la prise de pouvoir du FN dans trois villes du sud de la France. Deux ans plus tard, à l'issue d'élections municipales partielles, la liste du Front National conduite par les époux Maigret l'emporte sur le maire sortant, le socialiste Jean-Jacques Anglade. Vitrolles devient la quatrième ville de la région PACA à passer sous contrôle du FN. Archive INA pour continuer, celle du 9 février 1997, suivie du morceau Vitrolles joué par les Raspigaos de l'ami Ismo. Dédicace à toi mec, c'est parti, élection à Vitrolles et Vitrolles de Raspigaos, c'est parti.
Toulon, Marignane et Orange, Vitrolles est désormais la quatrième ville conquise en moins de deux ans par le Front National. La liste FN, conduite par Catherine Maigret, a en effet remporté l'élection municipale de dimanche avec plus de 52% des voix face au maire socialiste sortant, Jean-Jacques Anglade, qui n'a obtenu qu'un peu plus de 47% des suffrages. Reportage à Vitrolles de Guylaine Chenu et Hervé Pozzo.
La Marseillaise pour fêter la victoire. Avec plus de 52% des suffrages, Catherine Maigret remporte cette élection et offre ainsi une quatrième ville au Front National. Autour d'elle ce soir, venus en voisin et en chaperon, les maires frontistes de Marignane et d'Orange et son mari à qui elle dédie sa victoire.
Je voudrais souligner combien notre victoire est d'abord celle de mon mari.
Un peu plus tôt dans la soirée, c'est en effet Bruno Maigret qui tire les premières conclusions politiques de ce scrutin.
C'est la preuve que le Front National a la capacité de rassembler une majorité de Français dans une élection contre la classe politique.
Apparemment, il n'a pas séduit les abstentions.
Ambiance plus que morose au quartier général du socialiste Jean-Jacques Anglade. Les troupes sont rassemblées dans le plus grand silence. Les résultats arrivent un à un. On compte et on recompte. À 21h30, les militants comprennent que le Front républicain n'a pas suffi à barrer la route à Catherine Maigret.
Nous avons perdu une bataille importante à Vitrolles. Nous n'avons pas perdu la guerre. Il nous faut désormais la gagner pour nos valeurs.
Une soirée sous tension à la salle des fêtes où l'on annonce les résultats. Certains entonnent le chant des partisans. Pendant que dans un bureau de vote, en plein dépouillement, on en vient aux mains. Devant la permanence du Front National, des jeunes jettent des pierres. À quelques mètres de là, chez les socialistes, on calme les troupes.
Si tout au fond ils veulent rentrer ici, qu'ils évitent de casser sur ici. Hein.
Et dans un hôtel aux portes de Vitrolles, le Front National est le seul à faire la fête ce soir.
cessera de progresser. Un virus ignoble qui paralyse les gens et leurs idées. Certains un peu aveuglés et n'ayant pas l'esprit précoce. Croyez voir venir la paix, l'attendez d'un appétit féroce. Regardez-les. Ils ont encore la bouche ouverte. Ils attendront longtemps avant la triste découverte. Un certain amène rien ne change, rien ne fera possible. Si d'autres sont filous, en tout cas ils laissent les gens paisibles. Que voulez-vous que fasse un mafiosi et une folle? Quand je le dis, c'est pas eux qui rendront belle vitrole. Réagissons, il faut faire opposition.
Réagissons,
n'agissons plus comme des moutons.
Réagissons,
il faut faire opposition.
Réagissons,
bili bing bam bam boy.
Oudiep, Oudiep, j'en appelle à la banderole. Oudiep manifesté, on nous a volé vitrole. Oudiep, Oudiep, j'en appelle à la banderole. Oudiep manifesté, on nous a volé vitrole.
Car c'est bien pour de fumer des joints toute la journée comme des novices. Sachez user du hashish avec plaisir et malice. Ça serait bien dommage pour tous les planteurs de graines. Si c'est elle qui monte pouvoir une chose se rassurer certaine. Vous n'en verrez plus la couleur, vous n'en sentirez plus l'odeur. C'est la police qui fumera tous vos durs mois de labeur. Car pour l'instant, le peu de liberté roule. Quand des femmes contre leurs idées hostiles sera englouti demain par une violence rare. Par le Front National, par le PEN et ses idées barbares. Mais une chose soit claire à l'oreille de ces bâtards. Nous sommes de gros bavards, de gros vantards, ça n'aura qu'il l'art. Ils peuvent prendre le monde, ils n'auront jamais nos guitares. Entre vous et ses fous, on s'est pas proche par hasard.
Oudiep, Oudiep, j'en appelle à la banderole. Oudiep manifesté, on nous a volé vitrole. Oudiep, Oudiep, j'en appelle à la banderole. Oudiep manifesté, on nous a volé vitrole.
Cette espèce de méduse a encore fait des siennes et toujours on l'excuse. Jusque chez les Allemands, ses propos incohérents sur l'inégalité des races ont fait la une, c'est décevant. Elle ne sait plus quoi dire ni quoi faire de ses dix doigts. Elle veut changer le nom de vitrole, il ne manquait plus que ça. On n'a qu'à l'appeler Marie-Deux, ou Lyon, ça serait mieux. Construire une belle autoroute qui passerait en plein milieu. Ou un gros aéroport, ça ne ferait pas de tort de la ville qu'elle a déjà rendu presque mort. Mais Catherine, ma fille, où tu poses tes fesses sur toutes les chaises, les doigts des Marseillais ils se pressent. Ne rends-tu pas venir la fin de ton mandat? Si tu ne le sens pas par la force, tu partiras.
Oudiep, Oudiep, j'en appelle à la banderole. Oudiep manifesté, on nous a voulu vitrole. Oudiep, Oudiep, j'en appelle à la banderole. Oudiep manifesté, on nous a volé.
Jean-Marie Le Pen devient un habitué des dérapages. Le 2 avril 1998, il est condamné à 2 ans d'inéligibilité pour avoir agressé une candidate socialiste lors des législatives organisées 1 an plus tôt. La situation se tend au sein du parti lors des élections régionales de décembre 1998. Bruno Maigret, numéro 2 du parti, et 6 de ses alliés sont exclus. En cause, une rivalité idéologique. Bruno Maigret voudrait s'allier avec le RPR alors que Jean-Marie Le Pen y est fermement opposé. Ce désaccord profond pousse Bruno Maigret à créer 1 an plus tard le Mouvement National Républicain, un parti rangé depuis aux oubliettes. Avril 2002, c'est la campagne présidentielle. Le leader du FN qui surveille ses excès de langage axe sa campagne électorale sur le thème de l'insécurité et de la préférence nationale. Une stratégie payante. Le 21 avril 2002, il se qualifie pour le second tour avec 16,86% des suffrages exprimés. Un séisme politique qui a drainé une large mobilisation, particulièrement les artistes et musiciens. Le Front Républicain avait bien marché, tout sauf Le Pen. Ça a fait mal au cul de voter Chirac, un souvenir encore frais dans de nombreuses mémoires, y compris la mienne. C'est pourquoi le Front Républicain contre Marine Le Pen, souhaité par tous les médias, a moins marché en 2017. On se fait avoir une fois, pas deux, extraits live d'un concert de Hayam en référence à ce fameux 21 avril 2002. À toutes.
On était en studio, mais il s'est passé un événement majeur, je pense, dans notre pays, où on s'est fait remarquer absolument dans le monde entier. Le Pen est arrivé au deuxième tour des élections présidentielles.
Comment dire ? C'est la Hachem dans le monde entier, quoi.
Voilà. Et nous ?
On se devait d'en parler.
Forcément. Ce jour-là, on a écrit ça. Et Jean-Marie, Bruno et son sort. Crois-tu être plus propre que moi ? Que ce serait mieux si c'était autre que moi ? Pour croire que c'est ton heure, après vas-y allez croque ce mois. Elle n'aura plus après ici pas, c'est comme le gloss qu'on bat. Rien n'a changé, même discours toujours les roses qu'on bat. Où est-ce qu'on va? Nos convictions expirées. Trahis par nos pères, sa petite raison les premiers à se faire virer. Je me trouve là et là, elles sont brutes que j'en ai retiré. C'est que ce pays est une grosse pompe qui rêve de se faire cirer. Je veux pas voir nos gosses à genoux en GAV. Vend les fils à Boussard, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir dans tout ça? J'ai pas le sang bleu gars, je suis issu d'une famille modeste. Émigré de Naples, malheureusement, on prend à retourner nos vestes. Ça paraît simple, on a pourtant pas de mal à faire commerce. La vie c'est ça, regarde comment nos pères et mères conversent. Électrochoc maintenant, admire en ce point, nos forces convergent. Mentalité de résistant face à celle de grosses concierges. Je garde le cap, car ton putain de camembert. Rime avec mère et charter, ça gêne, moi je t'emmerde. Vivre ici, tu crois pas que j'ai bien la chance qu'on a. Mais moi je suis caché, pas question pour ça de vendre mon arme. Je braque mon arme, mon stylo et ça passe au mat. Prie mon maître pour qu'il éclaire ceux qui sont dans le coma. Je m'assume, mais jette pas dans une fausse jonate.
En avril 2003, la fille de JMLP, Marine Le Pen, entre au Front National par la porte du service juridique fraîchement créé. 2 ans plus tard, elle obtient une place au bureau politique, l'instance dirigeante du Front National. La même année, elle prend également la tête de l'association Génération Le Pen, dont le but est de dédiaboliser le parti. Avec elle et ses conseillers comme Philippot. Et en quelques années, le FN investit des registres de gauche, parle de république et de laïcité et remet en cause le lepénisme historique. C'est un tournant fondamental dans l'histoire du parti. Le père prônait jusque-là, sur le plan économique, un ultralibéralisme pro-européen. Il a même milité pour une monnaie unique. La fille et le père vont faire évoluer la ligne du parti vers un euroscepticisme protectionniste et anti-mondialiste. Un tour de passe-passe qui a déjà été emprunté par les extrêmes droites dans l'histoire pour siphonner les voix du parti communiste et des ouvriers. Mais on est bien sur les mêmes bases idéologiques qui ont constitué le socle du parti depuis 1972. Le FN n'a jamais été un parti proche des travailleurs et du peuple. C'est même tout le contraire. L'égalitarisme, c'est vraiment pas leur truc, comme on a pu l'attendre dans un extrait de portrait de l'extrême droite en 1983. Explication de texte sur cette évolution. avec Daniel Mermet. Et là-bas, si j'y suis, une émission en compagnie de Dominique Vidal, historien et journaliste au Monde Diplo. On était le 31 août 2011. C'est parti.
Il faut retrouver l'État en le remettant au service du peuple.
BFM TV.
Et pour cela, enchasser les coucous qui en ont fait la courroie de transmission des volontés des multinationales et de l'hyperclasse mondiale.
26 janvier 2011.
Car l'État est devenu l'instrument du renoncement devant l'argent.
Marine Le Pen.
Face à la volonté toujours plus insistante des marchés financiers, des milliardaires qui détricotent notre industrie et jettent des millions d'hommes et de femmes de notre pays dans le chômage, la précarité et la misère. À l'heure où la crise et la mondialisation font rage, quand tout s'effondre, il y a encore l'État. À celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien, disait Jaurès en son temps, lui aussi trahi par la gauche du FMI et des beaux quartiers.
Putain, Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça.
Dominique Vidal, il y a de quoi quand même être troublé. On se souvient comment Nicolas Sarkozy a utiliser l'image de Guy Moquet, Jaurès, citant Jaurès à l'envi. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle aussi fait son marché chez Jaurès, cite Jean-Pierre Chevènement, cite Emmanuel Todd, et elle a, semble-t-il, quand même un certain nombre de conseillers, d'intellectuels ou de journalistes qui sont des gens, disons, des républicains, des souverainistes, voire même carrément des gens de gauche. Et ce qui est troublant là-dedans, c'est, par répercussion, le discrédit que ça apporte sur les idées de gauche ou les idées égalitaires, les idées, l'horizon socialiste.
Il y a quelque chose qui est fascinant. Vous parlez de Jaurès, ça me fait me souvenir d'une phrase très importante du discours de Le Pen. Le Pen, non pas Marine, mais Jean-Marie. Le 1er mai 2011, lors de la fameuse fête annuelle de Jeanne d'Arc. Parce que il y a une fascination pour Marine Le Pen que personnellement j'ai du mal à m'expliquer. Hein. Dans la classe médiatique, même dans la classe politique, on a l'impression qu'il y a là une espèce de génie de la politique. Excusez-moi, faut rendre à César ce qui revient à César. Le tournant dont nous parlons en ce moment, c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a pris. Je cite... Je vous ai amené, c'est la seule citation que j'ai amenée, mais celle-là, j'y tiens. C'est donc le 1er mai 2011, devant les troupes du FN. « Marine, dit son père, me disait l'autre jour à propos de ce discours du 1er mai, Jaurès et pas Thorez. » Et Le Pen ajoutait, Le Pen, Jean-Marie, « Et pourquoi pas ? Avant que le Parti communiste français et les syndicats n'eussent trahi les ouvriers en acceptant la mondialisation et l'Europe, et en devenant immigrationniste, Georges Marchais ne réclamait-il pas son arrêt immédiat et ne défendait-il pas le produisons français ? Il avait raison comme nous avions raison. Et Le Pen, le père, ajoutait « Pourquoi ne pas le dire ? Cette gauche-là, qui vit encore, celle de la défense des opprimés, des exploités, des petits patrons, des petits fonctionnaires, des petits paysans, est certainement plus éloignée de la gauche américaine, des Strauss-Kahn et des Aubry, que nous. Elle est plus proche de nous que cette droite de l'argent roi, des Rolex et des chanteuses, celle qui finance les banques, qui verse des milliards de bonus à ses traders pendant qu'un de nos paysans se suicide chaque jour. » Donc, c'est une pensée collective. C'est pas Marine Le Pen qui a sorti de son chapeau ou de son expérience dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une stratégie qui a été mise en œuvre consciemment par son père et qu'elle poursuit avec l'avantage de la jeunesse, d'une tradition débarrassée des petites phrases et des relents puants du papa. Tout ça est oublié avec elle. Et à mon avis, le but est triple. Premier but, draguer l'électorat ouvrier. On va y revenir parce qu'elle réussit.
Oui.
À le faire. Mmh. Et ça, je voudrais vous donner des chiffres qui sont des chiffres absolument effarants. Hein. Il faut les prendre avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Deuxièmement, donner plus de respectabilité au Front National. En faire un parti comme les autres. Et là aussi, si j'en juge par les sondages qui sont ce qu'ils sont, le monde diplomatique a assez dit de mal des sondages pour que je n'en abuse pas ici, mais quand même... les sondages montrent que l'idée que le Front National est un parti comme les autres est devenue une idée majoritaire, alors qu'elle était minoritaire avant l'élection de Marine Le Pen. Et troisièmement, faire avancer l'idée de l'alliance possible, voire probable, entre une partie de la droite républicaine, UMP en l'occurrence, et le Front National. Alliance locale d'abord, régionale, et puis éventuellement nationale. Et là encore, les sondages montrent qu'une partie de l'électorat UMP est sensible à cette éventualité, même si, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, il résiste quand même. Hein. Mais ce qui est le plus frappant, peut-être c'est de ça qu'on pourrait parler, parce que c'est vraiment intéressant, c'est que Marine a réussi là où son père n'avait qu'à moitié réussi, c'est-à-dire draguer une partie de l'électorat ouvrier.
Le revirement idéologique et la nouvelle rhétorique du FN sonnent creux et à visée uniquement politique, mais l'enfumage est pourtant réussi. Marine Le Pen, élue fraîchement présidente du Front National, fait un score de 18% des voix au premier tour des élections présidentielles de 2012, sans pour autant le qualifier pour le second. Jamais la bête n'avait fait mieux. En août 2015, papa est finalement exclu du parti après en avoir remis une couche sur les chambres à gaz et le maréchal Pétain. La même année, en décembre, ce sont les régionales et le FN confirme sa place de premier parti de France derrière celui des abstentionnistes. Quasiment 28% des suffrages et en tête dans 6 régions. Avril 2017, Le Pen fille franchit le premier tour de l'élection présidentielle avec 7,5 millions de voix juste derrière Macron. Depuis, la connerie frontiste est toujours d'actualité. Ils ont changé de nom en 2018. Maintenant, c'est le Rassemblement National. Pour le reste, on ne change rien. Ça crache sur les immigrés, les bolcheviks, ça chie sur les travailleurs et les déniés acquis sociaux. Qui nous reste, on se quitte avec le regretté Raoul Grivalier de la Martinique et son bel et militant. À la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. On parlera immigration et identité nationale. C'était à la recherche du groove perdu. Ciao. Pas bon encore.